Voilà, merci pour toutes ces exhortations. C'était une bénédiction déjà et je ne voudrais pas gâcher la bénédiction. Donc, vous retenez ce que vous avez déjà, déjà entendu. Vous allez voir aussi qu'il y a certaines choses qui sont dans la continuité. C'est souvent ce que le Saint-Esprit permet. Alors, j'aimerais parler sur Ésaïe 35, un passage court, un chapitre court d'Ésaïe et qui est plein de réjouissance, plein de bonnes nouvelles, n'est-ce pas? Et bonne nouvelle, c'est, on l'a vu mardi, c'est l'Évangile, n'est-ce pas? La bonne nouvelle, c'est l'Évangile. Et là, il y a l'Évangile dans Ésaïe 35. Ce qui veut dire que si on nous supprime le Nouveau Testament, eh bien, ça fait rien. Enfin, ça ferait quelque chose, bien sûr, mais je veux dire, on le retrouve de toute façon dans l'Ancien Testament, les prophéties et les paroles qui sont des paroles d'Évangile. Et j'aimerais qu'on considère un peu certains aspects et qu'on fasse le parallèle avec le Nouveau Testament, bien sûr. Alors, au verset 4 d'Ésaïe 35, il est dit « Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Il viendra lui-même et vous sauvera. » Dieu viendra lui-même et vous sauvera. N'est-ce pas une prophétie de Jésus? On l'a entendu ce matin, c'est Dieu fait chair qui est venu pour sauver, pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Mais on a besoin d'entendre cette parole, même si on est sauvé. On a besoin d'entendre encore et encore cette parole, parce qu'il est dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé. Je ne vais pas demander de lever la main ce matin, les personnes qui ont le cœur troublé. Ça reste entre vous et Dieu. Mais je suis sûr que si on devait le faire, il y aurait des mains qui se lèveraient. Ceux qui sont découragés, ne craignez point, car Dieu lui-même viendra et vous sauvera. C'est une parole d'espérance. La parole de Dieu, c'est rempli de promesses et d'espérance. C'est rempli de vie. N'est-ce pas? Les gens ont la conception que la parole de Dieu, c'est tout un tas de règles, tout un tas de choses qu'il faut faire, et attention, la menace, si on ne les fait pas, etc. Mais il y a tellement la vie. Jésus est venu apporter la vie, il est venu donner la vie en abondance. Il n'est pas venu donner la mort, il n'est pas venu donner la condamnation, la culpabilité. Il est venu apporter la vie à ceux qui acceptent la vie, qui la prennent. Et au verset 5, il est dit, alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. C'est merveilleux, n'est-ce pas là aussi le message de l'Évangile qui est là présent. Ici, Jésus a guéri les aveugles, il a guéri les sourds, il a guéri les boiteux, il a guéri les muets. Et c'est ce qu'il fait aujourd'hui, d'une manière, surtout d'une manière spirituelle. Et c'est sur ça que j'aimerais parler. On a parlé des aveugles la semaine dernière, pas mal. Donc, je ne vais pas parler du fait qu'il ouvre les yeux des aveugles. Mais sachez quand même, ne l'oubliez pas, qu'on a besoin de demander, « Seigneur, ouvre mes yeux afin que je voie. Ouvre mes yeux pour que je puisse découvrir des choses nouvelles en toi. Pour que lorsque je lis ta parole, eh bien, je puisse découvrir des révélations que tu as à me faire, des choses personnelles que tu as à me dire, et que je puisse enfin les voir, que mes yeux soient ouverts. On a besoin de ça. Mais je vais parler essentiellement, ou d'abord dans un premier temps, sur le fait que les oreilles des sourds vont s'ouvrir. Et vous savez qu'une caractéristique des idoles, c'est décrit dans Ésaïe, c'est qu'elles ont des yeux et ne voient point. C'est qu'elles ont des oreilles et n'entendent point, c'est qu'elles ont une bouche et ne parlent point. C'est comme ça qu'Ésaïe décrit les idoles. Et vous savez que c'est malheureusement quelquefois l'expérience de nous qui nous disons chrétiens. Nous avons une bouche, mais nous ne parlons pas. Nous n'exprimons pas la parole de Dieu. Nous n'exprimons pas la louange à notre Dieu. Nous sommes liés au niveau de la langue, souvent, comme les idoles. Souvent, nous n'entendons pas la parole de Dieu. La parole de Dieu s'adresse à nous clairement. Il y a des choses qui sont dites, des choses qui sont même prophétisées, c'est-à-dire parler de la part de Dieu de manière très, très claire, et nous ne les entendons pas. Ou en tout cas, si ça parvient à notre intelligence, ça n'a aucun effet au niveau des conséquences. Il n'y a pas un retour chez soi et une recherche de Dieu en disant « Seigneur, j'ai entendu des choses ce matin et je veux qu'aujourd'hui ces choses soient mises en pratique dans ma vie. Qu'aujourd'hui ces choses s'accomplissent dans ma vie personnelle. » Nous sommes comme des idoles qui ont des oreilles mais nous n'entendons pas. Nous avons des yeux et nous ne voyons pas. Nous avons une bouche et nous ne parlons pas. On apprend parfois des prières où on a une façon de prier, et ça c'est moi en premier, ne pensez pas que je suis en train de parler sur les autres, c'est certainement sur moi en premier, à moi en premier que mes prédications s'adressent. Mais nous avons des prières qui sont apprises. Bien sûr, on ne les récite pas par cœur, on n'a pas un texte, on n'a pas un livre de prières, n'est-ce pas? Mais on a appris des règles sociales évangéliques qui font qu'il faut dire les choses d'une certaine manière et que si on les dit d'une certaine manière, eh bien, ça va plaire, ça va être spécial, ça va paraître spirituel. Et c'est le danger, n'est-ce pas? On a besoin d'entendre des prières qui viennent du cœur, des langues qui soient libérées et qui disent, dans un mauvais français ou dans un bon français, qui disent ce qu'il y a dans le cœur, qui louent le Seigneur. On a besoin de gens qui se lèvent et qui glorifient Dieu, même si ça fait désordre, même si ça dérange certaines personnes, même si ça perturbe le bon ordre du culte, ça glorifie, si ça glorifie Dieu, c'est ça qu'on veut voir. Et c'est ça qui doit se passer. Parce que sinon, nous sommes comme des idoles. Et quelle est la caractéristique des idoles ? La caractéristique des idoles, c'est qu'elles représentent la divinité, mais elles sont une abomination aux yeux de Dieu. Et les gens qui se disent chrétiens et qui ont beaucoup de caractéristiques de Dieu, n'est-ce pas? Parce que l'idole représente la divinité le plus, disons, telle que l'artiste la conçoit. Mais on peut être comme ça, on peut représenter Dieu, on peut avoir le titre de chrétien, être connu autour de soi comme étant quelqu'un de chrétien, comme étant quelqu'un qui a des bons comportements. Et chaque comportement que l'on fait, eh bien, ça nous valorise en disant « je suis chrétien », mais on n'est rien d'autre que des idoles. Parce qu'on n'a pas reçu la vie. La caractéristique d'une idole, c'est qu'elle est morte, c'est qu'elle n'entend pas, c'est qu'elle ne voit pas, même si elle a des yeux. Et c'est comme ça souvent dans nos vies spirituelles. Jusqu'à ce que le Dieu lui-même vienne pour nous sauver. Même si on déclare qu'on a été sauvé un jour, et je le crois, un jour on a accepté Jésus-Christ dans notre vie, on a été sauvé. Mais on a besoin de venir à Dieu jour après jour et de demander « Seigneur, maintenant donne-moi le Saint-Esprit, donne-moi la vie en abondance ». Je veux pouvoir déborder. On va voir qui est cette question ici, dans ce chapitre, d'un désert dans lequel il y a des fleuves d'eau vive qui commencent à couler. Et vos vies et ma vie souvent ressemblent plus à un désert, à une idole, que à un endroit où il y a de l'eau vive qui coule. Et si on vient à Jésus chez soi, quel que soit notre arrière-plan, quel que soit nos nombres d'années de conversion, et on dit « Seigneur, fais-moi connaître cette eau vive. Tu as dit que tu donnerais de l'eau de la vie, alors je la veux. Je veux que ma vie, qui est comme un désert, ressemble à une prairie où fleurissent les fleurs, où poussent les arbres, où il y a du fruit en abondance. » Parce que c'est ça l'Évangile. Ça n'est rien d'autre que ça, l'Évangile. L'Évangile, disait l'apôtre Paul, est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et si l'Évangile n'est pas manifesté dans les vies, si nous ne vivons pas cette eau qui jaillit de nos vies, dans nos vies, si nous ne portons pas du fruit, s'il n'y a pas des fleurs qui poussent dans nos vies, eh bien nous n'avons pas l'Évangile, nous n'avons pas le salut. Même si on a été déclaré chrétien, même si on a été déclaré reconnu comme sauvé, s'il n'y a pas cette libération, cette eau vive qui coule, il n'y a pas le salut. Parce que le salut, c'est cette puissance de Dieu, et le salut dans la vie, c'est une puissance de Dieu qui se manifeste dans nos vies. alors s'ouvriront les oreilles des sourds. Est-ce que nos oreilles sont ouvertes? Est-ce qu'on a entendu la voix de Dieu? Je me rappelle l'avoir entendu quand j'étais enfant, peut-être à l'âge de 9-10 ans, pour la première fois très clairement. Avant, je fonctionnais beaucoup sur le principe de la croyance, de ce qu'on m'avait enseigné, mais j'ai entendu la voix de Dieu qui commençait à me parler quand j'avais 9-10 ans. Ça a été que le début. Mais combien, quelquefois, je me dis que je l'entends peut-être moins que lorsque j'étais enfant et adolescent. J'entendais la parole de Dieu, et la parole de Dieu a la caractéristique souvent de, enfin toujours, lorsqu'elle agit dans nos vies, de nous transformer, de faire une œuvre, d'accomplir quelque chose, parce que Jésus n'était pas sur la terre à ne rien faire. Il n'est pas venu sur la terre pour juste attendre sa crucifixion. Il agissait. Et Jean chapitre 1 nous dit qu'il est la parole faite chair, et cette parole dans nos vies fait une œuvre constamment, et cette œuvre c'est de guérir les aveugles, c'est de rétablir ce qui est boiteux, c'est de libérer les oreilles qui sont sourdes. Et l'Esprit de Dieu qui travaille dans nos cœurs, qui nous parle, eh bien veut ouvrir nos oreilles. Et Ésaïe écrivait dans le chapitre 50, vous n'êtes pas obligé de tourner, mais il dit au verset 5, « Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille. » C'est ça qu'on a besoin. Il n'est pas question d'ouvrir ses oreilles. On a besoin que Dieu ouvre nos oreilles. « Le Seigneur m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies, aux crachats. Mais le Seigneur, l'Éternel m'a secouru. » C'est une parole qu'on attribue très justement à Jésus-Christ, parole prophétique, messianique. Mais cette parole, ce n'est pas seulement pour Jésus-Christ, c'est pour nous. Est-ce que le Seigneur nous a ouvert les oreilles? Et est-ce qu'on n'a pas résisté? Le drame, c'est que l'on résiste. « Seigneur, ne touche pas mes oreilles. Je ne veux pas entendre ta voix. » Je veux me cacher pour ne pas entendre ta voix. Je veux me détourner. Je veux me sauver loin pour ne pas entendre ta voix. C'est ce que Jonas a fait. N'est-ce pas? Il a pensé qu'en partant dans la direction opposée de ce que Dieu lui demandait, il n'allait plus entendre la voix de Dieu. Mais c'est là où il l'a entendu, de manière à être, à se repentir, à pousser à la repentance. Et ici, Ésaïe, dans le chapitre 50, dit qu'il n'a pas résisté. Et il dit aussi que Dieu a touché, oui, il éveille chaque matin, c'est au verset 4, il éveille chaque matin mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Les disciples, c'est ceux qui sont sous la discipline de Jésus-Christ. Et si vous êtes sous la discipline de Jésus-Christ, vous devez entendre sa voix tous les jours, chaque matin. Chaque matin, c'est une image, bien sûr, mais ça veut dire tous les jours. Il faut que Dieu touche vos oreilles pour que vous puissiez entendre sa voix. Est-ce que vous entendez sa voix aujourd'hui? Mais il est dit à plusieurs reprises, et notamment dans Ésaïe, chapitre 3 et 4, dans Hébreux, pardon, chapitre 3 et 4, et c'est pris d'un psaume, « Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Ici, Ésaïe pouvait dire « Je n'ai pas résisté, je n'ai pas détourné mon regard, mais mon oreille de ce que Dieu voulait me dire. » Et ce matin, est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'on est prêt à se tenir devant Dieu et de dire « Seigneur, parle-moi, j'ai besoin de t'entendre. » Est-ce que comme Samuel, on va dire « Parle, Seigneur, ton serviteur t'écoute, ou ta servante t'écoute, je veux entendre ta voix, je veux entendre. » Peut-être il ne va pas vous dire ce que vous voulez entendre. Peut-être vous espérez qu'il dise « Oh là, t'es extraordinaire. » Peut-être pas, il ne va peut-être pas dire ça. Peut-être il va dire quelque chose que tu as peur d'entendre et c'est pour ça que tu résistes à écouter. Mais laissons-nous, soumettons-nous à cette voix, à cette parole de Dieu, parce qu'il veut toucher nos oreilles et il veut nous parler. Donc ça, c'est le premier point, qu'il veut ouvrir les oreilles des sourds. Toujours dans Ésaïe 35, il est dit, il est prophétisé que le boiteux sautera comme un cerf. on a besoin de voir cela dans l'Église. Que ce qui est boiteux soit guéri. Ce n'était pas un problème pour Pierre et Jean dans le chapitre 3 des Actes, de voir cet homme qui était boiteux, de le voir et de dire « Nous n'avons ni argent ni or. » Le problème des chrétiens maintenant, c'est qu'ils ont de l'argent et de l'or. Mais ça, vous allez dire « J'ai pas de l'or, mais vous avez l'argent en tout cas. » Ou des biens matériels. « Nous n'avons ni argent ni or. » Pourquoi ils n'avaient rien? Pourquoi ils n'avaient pas d'argent et or? Parce qu'ils avaient tout vendu et ils avaient tout mis en commun. Ils avaient aussi donné aux pauvres. C'est pour ça qu'ils n'avaient pas d'argent et d'or. Mais ce que nous avons, nous te le donnons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. La parole de Jésus dans l'Église, c'est « Lève-toi et marche ». Lève-toi à ta place et marche. Commence à marcher spirituellement. Ne restons pas assis spirituellement. Je ne parle pas d'assis physiquement. Je parle de rester assis dans l'état dans lequel nous étions lorsque nous avons connu le Seigneur, en restant, en disant « Seigneur, merci parce que tu m'as arraché de l'enfer et j'ai l'espérance de la vie éternelle. Donc je reste assis, j'attends tranquillement la vie éternelle quand elle viendra et le plus tard possible parce que je veux profiter de la vie sur la terre. » Le Seigneur veut voir des hommes et des femmes qui se lèvent, qui disent « Voilà, je suis guéri, je peux me lever. Je ne pouvais pas me lever, mais maintenant je peux me lever. » Et je peux marcher parce que au nom de Jésus, j'ai entendu cette voix parce que mes oreilles ont été touchées. J'ai entendu cette voix qui me dit « Lève-toi et marche ». Il y a des choses que Dieu nous a demandé de faire et nous résistons. Nous restons assis en disant « Non Seigneur, je ne vais pas réussir à me lever. Je suis boiteux de naissance. Je suis dans l'impossibilité d'avoir la force de me tenir sur mes jambes. Et pourtant, Jésus te dit, lève-toi et marche. » Combien de gens j'ai rencontrés concernant le baptême ? Ils ne voulaient pas se faire baptiser d'eau. Parce qu'ils ont dit, mais moi, je me suis fait baptiser quand j'étais enfant. Dans l'Église catholique, je me suis converti et j'ai validé mon baptême lorsque je me suis converti, ça a pris un sens à ma conversion. C'est pas bête comme raisonnement. Ça tient la route. Mais ce n'est pas ce que Dieu demande. Dieu va vous parler un jour et va vous dire, lève-toi et va dans l'eau. Mais pas tout seul, va dans l'eau lorsqu'il y aura un baptême. Parce que c'est ça que je t'appelle à faire, pour déclarer publiquement, officiellement, que tu veux suivre le Seigneur. Quand j'ai entendu la voix du Seigneur, j'ai dit au Seigneur, « Seigneur, je veux donner ma vie au Seigneur. Je veux te donner toute ma vie. Je veux que tu me changes. Je veux que tu me donnes la vie éternelle. Mais je voudrais que personne ne le sache. » Et après, je m'étonnais pourquoi j'avais rien dans ma vie qui changeait. Et le Seigneur m'a montré et m'a dit, « Il faut que tu dises devant les autres. Il faut que tu manifestes devant les autres que tu veux servir le Seigneur, que tu veux suivre le Seigneur. » Pour moi, c'était une montagne. À 13 ans et demi, c'était impossible pour moi de faire ça, jusqu'à ce que j'obéisse parce que la voix du Seigneur était tellement pressante, que si j'avais résisté, j'aurais fait une dépression. Et j'ai accepté, c'était une libération, n'est-ce pas, de pouvoir le faire, de pouvoir dire, « Moi, je veux servir, je veux suivre le Seigneur. » Mais c'est pas seulement, bien sûr, qu'il dit « Lève-toi et marche ». Il donne la guérison. Il donne le moyen de se tenir sur les pieds. Il donne la force de se lever et de marcher. Parce que ce qui était impossible pour nous, ce qui est encore boiteux dans nos vies, eh bien, Jésus veut le guérir ce matin. C'est ça l'Évangile. Dieu ne veut pas des gens qui se disent chrétiens et qui sont boiteux dans leur vie spirituelle, c'est-à-dire qu'ils ont quelque chose qui ne va pas dans leur marche. Il veut des gens qui marchent droit et qui marchent avec Dieu. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mais c'est une question dans les épîtres de Paul de marcher. C'est une question d'avancer et de manifester au monde que nous avons reçu la guérison de ce qui était boiteux. Et si vous voulez retrouver ce passage qui est mentionné au début du chapitre 35, au verset, au verset 3, « Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. » Eh bien, vous le trouvez dans Hébreux 12 qui a déjà été mentionné. Donc ça veut dire que le Seigneur veut, ne passez pas à côté de ça. Il veut que vous lisiez et méditiez sur Hébreux 12, n'est-ce pas? Ok? Donc Dieu veut qu'on travaille Hébreux 12 chez soi, qu'on réfléchisse. Et effectivement, j'avais l'intention de dire que Hébreux 12 est un des passages les plus importants de la Bible. Parce que s'il fallait sélectionner, n'est-ce pas, des passages dans la Bible pour, si on nous interdisait la Bible et on devait cacher des passages dans les chaussettes, eh bien, il faudrait découper le Sermon sur la montagne, Matthieu 5, 6, 7. Il faudrait découper Jean 14, 15, 16, 17. C'est la promesse du Saint-Esprit, n'est-ce pas, qui viendra. 15, c'est « Je suis le cep, vous êtes les sarments ». 17, c'est la prière sacerdotale, la prière de Jésus à son Père. Il faudrait découper Romains 6, 7 et 8, qui est extrêmement puissant concernant la question du fait qu'on est mort avec Christ et qu'on est ressuscité avec Christ et qu'il n'y a plus de condamnation dans Romains 8 pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il faudrait Galates 5, n'est-ce pas, pour le fruit de l'Esprit, pour nous le rappeler chaque matin. Et il faudrait Hébreux 12, certainement. Bien sûr, il faudrait tout, en fait. Mais si on devait sélectionner, il faudrait sélectionner justement les passages. Hébreux 12 nous donne des choses essentielles. Il y a un petit verset que Brigitte a mentionné dans Hébreux 12 qui doit nous faire trembler, mais qui ne fait même pas peur aux gens qui le lisent. Et ça montre qu'on est sourd de pouvoir lire ce verset sans troubler, sans être troublé, sans être profondément remis en question. Sans la sanctification, il est impossible de voir Dieu. Ce verset est suffisant pour nous arrêter et pour nous mettre à genoux. Et les chrétiens lisent ça comme ça, sans la sanctification, il est impossible de voir Dieu. Ils passent au verset suivant, ça ne leur fait rien. Parce qu'il y a les oreilles qui sont bouchées. Sans la sanctification, il est impossible de voir Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a pas de chance, il n'y a pas d'espoir de voir Dieu dans la vie éternelle s'il n'y a pas une vie de sanctification. Même si on a dit « tu es sauvé, tu iras au ciel, c'est tranquille », on te donne un papier, même officiel, pour dire que tu es baptisé, membre d'une église, ce papier ne sert à rien si on n'a pas la sanctification. La sanctification se travaille dans la méditation de la parole de Dieu, de se trouver dans la parole de Dieu, et dans chaque jour demander à Dieu qu'il nous parle, qu'il nous purifie, qu'il nous change, qu'il nous transforme, qu'il nous aide à marcher selon l'Esprit. Et si vous avez quelque chose de boiteux, eh bien, vous demandez qu'il le guérisse. Si dans votre vie spirituelle, il y a quelque chose qui ne marche pas bien, eh bien, demandez à Dieu qu'il le fasse aujourd'hui. Par la puissance de son Esprit, il va agir. Parce qu'il est dit dans Hébreux 12, au verset 12, « Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. » Il reprend ce verset d'Ésaïe 35. « Et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » C'est ça que ici l'auteur de l'Épître aux Hébreux appelle le fait d'être guéri de ce qui boite. C'est le fait de chercher la paix avec tous, d'être en règle avec tous les hommes, d'être en règle avec Dieu en premier, bien sûr. Et c'est la sanctification. Sans la sanctification, on est boiteux, on est dans l'impossibilité de marcher. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf. Vous savez que quand, dans Acte 3, ce boiteux a commencé à sauter, à louer Dieu, vous avez remarqué qu'il a loué Dieu. Il y a peu de gens qui louent Dieu, réellement, en esprit, en vérité. Mais il y a une caractéristique de ceux qui ont été libérés, de ceux dans la vie desquels il y a eu ce fleuve qui est venu remplacer le désert, c'est qu'ils louent le Seigneur, c'est qu'ils adorent Dieu. Et ils sautaient de joie, et les gens ont vu le témoignage. Il n'a pas dû dire, bon, je vais vous donner mon témoignage, vous devez me croire, avant j'étais comme ça, maintenant je suis comme ça. C'était visible, il y avait quelque chose qui s'était passé dans la vie de cet homme, n'est-ce pas, qui était tellement transformé, il était tellement heureux, il avait tellement la joie, et puis ceux qui le connaissaient avant ne pouvaient pas dire le contraire, il y avait une œuvre qui a été faite. C'est ça que Dieu veut, c'est ça l'Évangile. L'Évangile n'est pas moins que ça. Ce n'est pas un texte, ce n'est pas un récit historique. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et le salut, c'est ça. C'est la guérison des aveugles. C'est la guérison de ce qui est aveugle, de ce qui est boiteux, de ce qui est muet et de ce qui est sourd dans nos vies. Et la langue du muet éclatera de joie. Est-ce que Dieu, Jésus a touché votre langue? Alors, dans Ésaïe 50, on a déjà lu ce passage. Ésaïe dit que Dieu a touché ses oreilles, il a ouvert ses oreilles. Mais il dit au verset 4 du chapitre 50, « Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée. » Alors, je sais qu'on peut avoir les uns et les autres, et peut-être vous pensez ça de moi maintenant, qu'il a une langue exercée, c'est-à-dire qu'il parle un peu trop. Mais ici, il ne s'agit pas d'une langue exercée à parler. Il s'agit d'une langue exercée à donner la parole de Dieu, et c'est totalement différent. Parce qu'il dit, « Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. » Voilà pourquoi Jésus veut guérir notre langue. Il veut qu'on puisse avoir la parole de Dieu qui s'exprime au travers de nous. Jésus, je l'ai dit beaucoup de fois, parlait peu, semble-t-il. Il parlait peu. Ce n'était pas fatigant. Il ne fallait pas le suivre dans une conversation. Il avait peu, mais il avait la parole qu'il fallait, la parole de Dieu, qui touchait le cœur, qui touchait la situation. Ça pouvait être une parole de guérison, ça pouvait être une parole de délivrance. Ça pouvait être une parole qui reprenait la personne. Mais en tout cas, c'était la parole de Dieu qui était manifestée, parce qu'il était lui-même la parole de Dieu. Et c'est ça que Dieu veut faire. Il veut que s'exprime, de nos bouches s'exprime sa parole. Parce que Jésus n'est pas sous la terre. Vous savez qu'il est obligé de venir en vision, dans certaines situations, dans certains pays, dans certaines situations où il est impossible pour eux de rencontrer quelqu'un qui connaît le Seigneur. Alors là, il s'occupe de ces cas-là, en venant lui-même, Jésus-Christ. Combien de témoignages Daniel nous a donné la semaine dernière, un témoignage à Sophie, à moi, encore un musulman qui a rencontré Jésus-Christ au marché. Il est allé au marché et il a rencontré quelqu'un qui lui a parlé. Et ensuite, il a compris que cette personne, c'était Jésus-Christ. Et il l'a orienté vers une adresse, vers des chrétiens. Mais en Occident, alors que la parole de Dieu est répandue, alors qu'il y a des gens qui se réclament de Jésus-Christ, c'est vous et c'est moi qui devons être la parole de Dieu. C'est nous qui devons être la parole de Dieu sur cette terre, pour pouvoir dire ce que Dieu veut dire aux hommes et aux femmes. Et ma langue est si souvent muette. Nos langues sont si souvent muettes. Nos langues devraient exprimer la gloire de Dieu, devraient louer le Seigneur, et on est liés. Ce qu'on peut faire, c'est des prières qui sont justes, des prières qui sont correctes, qui sont politiquement ou évangéliquement correctes, des prières qui donnent la doctrine correcte, parce qu'on est lié à l'intérieur par notre culture, par notre éducation, par ce que vont penser les autres. Mais ce que Jésus veut ce matin, c'est nous libérer pour qu'on puisse commencer à adorer Dieu en esprit, en vérité. Dans Jean chapitre 4, il est dit que c'est ça les adorateurs que Dieu recherche, ceux qui adorent Dieu en esprit, en vérité. Il ne cherche pas des gens, il comprend, il pardonne, il aime néanmoins, mais ce n'est pas ça qu'il veut pour l'Église. Vous avez quelquefois des gens qui pleurent dans l'Église, qui louent le Seigneur et qui commencent à pleurer, n'est-ce pas? Et ça gêne certaines personnes, parce que c'est extravagant, parce que ce n'est pas conventionnel, ce n'est pas selon les normes. Mais Dieu n'a que très peu à faire des normes posées par les hommes. Et ce sont des liens, ce sont des chaînes. C'est retourner à la loi. Mais en plus, ce n'est pas la loi de Dieu, c'est des lois sociales qui dictent comment doit se tenir un culte. Alors que l'Esprit de Dieu veut contrôler les choses. Il veut animer les vies pour que le culte soit animé par l'Esprit de Dieu. Et si on vient le dimanche matin préparé, et je voudrais encourager cela, que les uns et les autres, vous puissiez passer du temps à demander au Seigneur avant le dimanche, Seigneur, sois présent, pour que les personnes puissent recevoir la parole de Dieu qu'ils ont besoin d'entendre. Pour que si une personne vient pour la première fois, vous savez que vous n'avez pas le droit à l'erreur. Une personne qui vient pour la première fois, qui n'a jamais entendu parler de l'Évangile, qui vient pour voir, elle doit entendre la parole de Dieu obligatoirement. Sinon, on est coupable, on est responsable. Elle doit entendre la parole de Dieu qui s'adresse à son cœur. Elle doit pouvoir, parce qu'elle ne va pas fermer les yeux pendant les prières, ça c'est culturel. Ça c'est ce qu'on nous a appris quand on était enfant, il faut fermer les yeux. Et mon neveu disait... sur son frère, il n'a pas fermé les yeux pendant la prière. Donc ses parents disaient, comment tu sais qu'il n'a pas fermé les yeux? Mais cette personne ne va pas fermer les yeux, elle va vous regarder. Et qu'est-ce qu'elle va voir? Est-ce qu'elle va voir Jésus? Est-ce qu'elle va voir que vous avez été transformé, que vous avez été libéré, qu'il y a quelque chose qui jaillit de vos vies qu'elle n'a pas? Est-ce qu'elle va ressentir que sa vie est un désert et que votre vie est... resplendissante de la gloire de Dieu. C'est ça que Dieu veut. C'est ça l'Évangile qui est une puissance de Dieu. Vous savez, dans un culte, on m'a dit, j'ai entendu ça il y a longtemps, le culte se tenait très correctement jusqu'à ce qu'une petite fille se lève et dise « J'aime Jésus de tout mon cœur ». Et l'Église s'est effondrée dans les pleurs et dans la repentance. Parce que personne d'autre que cet enfant pouvait dire ça. Et la spontanéité, l'innocence de cet enfant a suscité une œuvre de libération dans la vie des hommes et des femmes qui étaient bien rangés, qui étaient bien spirituellement corrects, religieusement corrects, ont commencé à être transformés par le Saint-Esprit de Dieu parce qu'il y avait la parole prophétique chez cet enfant. C'est ça que Dieu veut faire. Et j'aimerais terminer en disant, en lisant avec vous et en commentant très brièvement le verset 8 du Ésaïe 35. Il y aura un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. C'est une prophétie de Jésus-Christ. C'est une prophétie que Jésus, qui est le chemin, la vérité, la voie sainte, viendra et c'est avec lui, c'est sur cette route qu'il faut marcher. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls, et on va comprendre à qui ce « eux » fait référence. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra, nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront, c'est eux. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Est-ce qu'il s'agit de Sion, un endroit géographique? Est-ce qu'il s'agit de Jérusalem, sur la terre? Non. Vous avez la réponse très claire dans Hébreux 12. Dans Hébreux 12, vous avez cette parole qui est reprise probablement en réponse à Ésaïe 35, où il est dit au verset 25, « Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Gardez-vous de refuser d'entendre l'Esprit de Dieu qui vous parle, la parole de Dieu. Car si ceux-là n'ont pas échappé qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des ciels, du ciel, lui dont la voix alors ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. » Alors au verset, c'était au verset 22. « Mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. C'est là le chemin. C'est là la voie sainte qui mène vers Sion, la Jérusalem céleste. Et c'est vers cette destination que nous pouvons marcher si nous marchons sur cette voie sainte. Cette voie sainte, c'est l'Évangile, c'est Jésus-Christ. C'est la bonne nouvelle de la libération, de la guérison, de l'aveuglement, de la surdité, du fait d'être muet, du fait d'être boiteux. C'est cette libération. Et alors commencera dans votre vie le début du chapitre 35. Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'éguera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillera de joie, avec chants d'allégresse et cris de triomphe. Alléluia, c'est ce que Dieu veut faire. Il veut rien faire de moins que cela. Est-ce que on veut cela dans nos vies, ou est-ce qu'on ne veut pas entendre sa voix qui nous demande juste d'écouter? Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous touche et qu'il guérisse ce qui a besoin d'être guéri en nous. Amen.